voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Florelle Manda.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 milliards de voisins. Hier avait lieu la journée nationale contre le harcèlement scolaire. En France, l'année dernière, 700 000 élèves sur un total de 12,3 millions en ont été victimes, dans la moitié de manière sévère. Le harcèlement, ce sont des moqueries, des insultes, des coups. De la maternelle au lycée, le harcèlement peut intervenir à tout âge et dans n'importe quel milieu. Difficile à détecter pour les parents, il est peu pris en charge par l'éducation nationale. Et dans de telles conditions, on va se demander comment aider les enfants, les familles et sensibiliser enseignants et chefs d'établissement. Et en Afrique, comment ça se passe? Nous en discutons ce matin avec nos invités. Bonjour Catherine Verdier.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, thérapeute, analyste, spécialiste des enfants et des adolescents. Vous êtes aussi la fondatrice de Psyfamille, présidente de l'association Amazing Kid et cofondatrice du centre de formation français du harcèlement scolaire. À vos côtés en studio, Valérie Piau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate, experte en droit de l'éducation en France et à l'étranger. Et puis nous sommes en duplex depuis Lyon avec Hugo Martinez, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez été vous harcelé pendant 12 ans à l'école. Aujourd'hui vous êtes le président fondateur de l'association Hugo et du centre de formation français du harcèlement scolaire. À Séoul, en Corée du Sud, où le harcèlement est un problème majeur, notre correspondant Frédéric Orjadias nous dira comment les parents tentent de venir en aide à leur enfant harcelé. Une méthode pour le moins extrême. Et quant à vous, les voisins, les voisines, si vous êtes parents et que vous pensez que votre enfant est victime de harcèlement à l'école ou que voilà, vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes un ancien harcelé, appelez-nous pour partager vos témoignages ou poser des questions à nos invités. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook ou sur Twitter.
7 milliards de voisins,
on existe ensemble.
Et on commence cette émission consacrée au harcèlement scolaire avec vos messages Facebook. Alors, il y a Oswald qui dit « J'ai été victime d'harcèlement par un camarade quand j'étais au CP. Il était plus âgé et plus robuste que moi. Cela a duré des mois pendant lesquels je ne savais pas quoi dire à la maison. Mon père ne vivait pas avec nous et ma mère ne sortait que pour faire le marché. Mes frères, eux, n'ont pas eu le temps de m'écouter. C'était traumatisant lorsque je devais aller en classe. Mais j'ai pu me défendre un jour et il a pris ses distances. Quand j'y pense, j'ai vraiment été courageux. » Catherine Verdier, qu'est-ce que ça vous inspire tout de suite, là, ce message?
C'est très difficile, comme il dit ce jeune homme, de devenir courageux. Parce que quand on est en situation de stress ou en situation de violence, effectivement, on n'a pas toujours les bons réflexes.
Oui.
Et on a juste des réflexes primaires, comme on dit. Et effectivement, réfléchir ou penser ou savoir ce qu'il faut faire au moment même de l'agression, c'est quand même extrêmement compliqué.
Mais justement, je pense que cette émission va éclairer bon nombre d'enfants et de parents par rapport à ce qu'il faut faire. Également, Paul de Boisquier en Côte d'Ivoire qui dit « Je suis enseignant. Dès ma prise de contact avec les élèves, je leur interdis la moquerie et les brimades envers leurs camarades. En général, le risque de harcèlement diminue. Le taux de participation des élèves qui ont peur d'être victimes de raillerie. » Valérie Piau, c'est une bonne initiative, ça, évidemment.
Oui, tout ce qui s'inscrit dans la prévention et surtout une prise de conscience. Moi, je sais que quand je vais dans les écoles pour justement expliquer ce que c'est que le harcèlement et essayer qu'il y ait une prise de conscience, on se rend compte que souvent les enfants ne se rendent pas compte à quel point, en fait, le fait de filmer avec un téléphone, des scènes de moquerie, d'être sur les réseaux sociaux et de tenir des propos dans un effet de meute à plusieurs, c'est quelque chose de très violent. Et donc, c'est bien quand le professeur...
Justement, le harcèlement scolaire, il est très difficile à détecter. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le harcèlement scolaire pour bien comprendre où ça commence, Catherine Verdier?
Alors, le harcèlement scolaire, c'est une violence qui est répétée par un enfant ou un groupe d'enfants sur un autre, avec une intentionnalité. Dans un phénomène de meute ou de groupe. Et c'est cette notion d'intentionnalité qui est très très importante, dans le sens où, à partir du moment où je vais l'appeler l'agresseur ou l'intimidateur, on a un problème de vocabulaire aussi, parce que harcèlement, on le met... on y reviendra. Mais effectivement, à partir du moment où l'agresseur, l'intimidateur s'aperçoit que sa victime, sa cible en face, longe les murs, pleure, va se cacher dans les toilettes, elle voit le mal qu'elle fait.
Donc elle veut nuire.
Exactement. Et à partir du moment où on voit le mal que l'on fait, il y a ce qu'on appelle intentionnalité. Et c'est ce qui différencie le conflit du harcèlement scolaire.
Oui, le conflit, les bagarres ou les disputes à ne pas mélanger. Il y a également, pour finir, Honoré Delomé qui dit « J'ai vécu ce harcèlement au CP avec un camarade élève qui me battait tous les jours. Mais le pire, c'est que notre maître d'école ne disait rien et n'a jamais puni l'élève en question. Heureusement, nous avons fini par déménager. Hugo, une réaction par rapport à ce que ce message Facebook d'Honoré ?
C'est vrai que moi, ce que je constate et qui est un constat régulier, au final, dans les cas de harcèlement, c'est que c'est la victime qui est obligée de se déplacer. Mais au final, déplacer le harceleur ou les harceleurs reviendrait à la même chose. On ne fait que déplacer le problème. Et je pense qu'on est en train d'éviter une des fonctions même de ce que nous devrions faire et ce sur quoi nous devrions nous attacher, c'est régler le problème dans le fond. Ne pas juste le déplacer, parce que déplacer la victime ou le harceleur, c'est juste en fait le remettre dans un autre environnement où au final sa position de harcelé ou de harceleur va revenir à la même, parce que et ça c'est un constat qu'on fait régulièrement.
Oui, puisque souvent victime, les enfants déménagent, changent d'école et ils sont à nouveau harcelés, donc il y a bien quelque chose. Alors, ce phénomène de harcèlement scolaire, c'est un phénomène qu'on a identifié à la fin des années 70 en Suède. En France, la prise de conscience, elle s'est faite très récemment finalement, puisque par rapport aux autres pays européens, c'était au début des années 2010. Donc, il y a quelques temps.
Tout à fait. Et vous parliez de chiffres tout à l'heure. Les chiffres que vous donnez, ils datent de 2015.
Donc,
ils sont erronés. Ils sont vraiment erronés dans sens où il y a des. Je m'excuse, pardon. Il y a des études internationales qui sont sorties en octobre 2018, donc de l'UNESCO en particulier et de l'UNICEF. Ce sont des études internationales sur des enfants qui donnent beaucoup plus que ça, qui donnent un collégien sur trois qui est harcelé, un lycéen sur quatre.
Oui. Effectivement, ces chiffres-là, je les ai également.
Ce que j'aimerais
dire, c'est que depuis 2010, il y a des mesures qui ont été mises en place. On en parle beaucoup aujourd'hui du harcèlement scolaire dans la société. C'est une thématique qui revient, malheureusement, parce qu'il y a des conséquences aussi dramatiques, ne serait-ce qu'en juin dernier, avec une petite fille de 11 ans qui a mis fin à ses jours. Est-ce que, du coup, le phénomène est en hausse ?
Le phénomène est nettement en hausse, oui. Très, très honnêtement, il est en hausse. L'âge des victimes est de plus en plus bas et sont de plus en plus jeunes. On est passé effectivement pour les suicides. C'est pas très gentil, enfin pas très joli à dire,
mais c'est une réalité.
Mais c'est de 14 ans à 11 ans, quoi. Donc il y a un phénomène, une ampleur quelque chose qui prend de l'ampleur. On a le problème du cyberharcèlement aussi, hein, qui amplifie tout ça. Et puis l'âge.
Oui, l'âge. Et l'âge, il faut préciser que ça concerne plutôt les enfants qui sont enfin à l'école primaire et au collège. C'est ça, fin école primaire et collège, entre 12 et 14 ans, ce sont eux les plus exposés.
Ce sont eux les plus exposés. Mais en primaire, l'étude de l'UNICEF dont je parlais, c'est-à-dire la quatrième consultation de l'UNICEF l'année dernière, donne un enfant sur deux à partir de 7 ans.
À partir de 7 ans ?
Oui. Donc on n'est plus fin de primaire. On est début primaire maintenant.
D'accord.
C'est vrai qu'ils ont des téléphones aussi. Enfin, je pense que les téléphones portables dès l'école primaire a accentué le phénomène du harcèlement et du cyberharcèlement.
Du cyberharcèlement, puisque aujourd'hui, ça ne s'arrête plus.
Voilà, parce qu'ils n'ont pas de maturité pour l'utiliser. Et c'est quand même un outil, parce qu'en général, il y a harcèlement au sein de l'école et ça continue en cyberharcèlement avec les téléphones. Mais quand vous parliez du caractère récent de la reconnaissance du harcèlement, c'est vrai qu'en France...
La prise de conscience.
Oui, mais même c'est une infraction pénale que depuis fin 2014.
Oui.
Donc, si vous voulez, ça reste quand même récent. Avant, il fallait qu'il y ait des violences physiques, etc. Mais l'infraction en tant que telle, c'est relativement récent qu'on donne cette qualification pénale.
Et que dit la loi, justement, Valérie Piot ?
Alors, en fait, le harcèlement, donc c'est comme Madame l'a expliqué, donc c'est des violences répétées dans le temps qui portent atteinte à la santé, à l'intégrité physique. Et c'est ce caractère répété, donc c'est une forme, effectivement, de violence et qui expose son auteur quand même dans, pour, l'auteur mineur jusqu'à 7500 euros d'amende. Alors, une peine d'emprisonnement, mais bon, qui est rarement évidemment appliquée pour les mineurs. Et dans les circonstances aggravantes, il y a le fait que ça touche des mineurs de moins de 15 ans et le fait d'utiliser Internet, c'est des circonstances aggravantes qui aggravent les peines encourues de prison ou les peines. L'amende va jusqu'à 45 000 euros et la peine d'emprisonnement jusqu'à 3 ans quand il y a notamment ces deux circonstances aggravantes que moins de 15 ans et utilisation d'Internet.
Et le handicap aussi, je crois.
Oui, voilà, ça fait partie des circonstances aggravantes, exactement, tout à fait.
Justement, ces peines, on en reparlera parce que je me demande si peut-être qu'on n'en parle pas assez aussi, parce que peut-être que ça serait dissuasif.
Oui, dissuasif.
Dissuasif, je suis assez d'accord avec effectivement. Vous, oui. Et peut-être qu'aussi, l'idée serait d'en parler davantage au-delà de la journée nationale. Hugo Martinez.
Je pense que c'est important de rappeler que le harcèlement scolaire, c'est 365 jours par an. Ce n'est pas que le premier jeudi de novembre. C'est aussi pour ça que les associations se mobilisent pour que toute l'année, cette cause puisse exister. Alors, pas exister dans le sens en tant que qu'il y ait des victimes, mais exister dans le sens de aussi la couverture que la cause peut avoir. C'est-à-dire parce qu'à travers les médias, on peut sensibiliser plus largement. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a le travail de fond qu'on fait dans les classes, dans les établissements scolaires, mais il y a aussi le travail auprès du grand public. Et ça, je crois que c'est un vrai enjeu. C'est vraiment une deuxième phase dans laquelle il faut qu'on entre. Mmh. On avait tendance à vouloir restreindre la possibilité d'agir qu'au sein des établissements scolaires, mais on le voit bien avec le cyberharcèlement qui ouvre au-delà des portes de l'établissement scolaire. Il faut véritablement engager tous les citoyens.
Ça continue à la maison, oui.
Ça continue à la maison. Et même au-delà des parents, au-delà des adultes, si on a fondé ce centre de formation du harcèlement scolaire et qu'on forme tous les professionnels de la santé, pas que des psychologues, pas que des psychiatres, c'est qu'il y a cette raison de dire qu'un diététicien, un podologue, une ostéopathe par exemple,
que ça fasse partie de notre quotidien. Hugo Martinez, vous avez été harcelé de l'âge de 6 ans à 18 ans, donc pendant presque toute votre scolarité finalement. À quel moment vous en avez parlé à vos parents et quel a été le déclic pour vous confier à eux? Parce qu'on dit que c'est, voilà, pour les enfants, c'est quelque chose qui est difficile.
En fait, la particularité, c'est qu'en effet, c'est difficile déjà à cerner. C'est-à-dire que ça commence par une insulte qui va venir en fait s'installer de manière la plus naturelle possible, comme si en fait, eh bien, c'était quelque chose qui était imposé, obligé en fait. C'est-à-dire que c'est une insulte qui est prononcée une première fois. Moi, la première insulte, c'était le bigleux, parce qu'aujourd'hui, je porte des lunettes, mais à l'époque, ce n'était pas le cas, donc je louchais d'un œil. Et cette insulte est répétée une fois, deux fois, trois fois. Et puis, c'est rajouté aussi la notion d'intello, parce que c'est vrai que j'avais peut-être un niveau scolaire qui me détachait du reste de la classe. Donc,
on est différent.
Des insultes. Voilà, je suis en tout cas catégorisé comme différent. Oui. Mais c'est vrai que ça s'installe vraiment de manière crescendo et on ne s'en rend pas compte. Et en fait, on va s'en rendre compte à un stade où la situation est déjà installée. C'est un rituel, c'est quelque chose qui ne peut plus s'arrêter au final. Donc je m'en rends compte à un moment, mais au final, je me cache très vite derrière mes lorgnons en disant « Oh, c'est pas grave, au final, je vais passer au-dessus. Mm-hmm. » Et puis donc les choses s'amplifient. Moi, je me réfugie dans la nourriture, donc je prends du poids. Donc je deviens aussi le gros de service.
Encore une nouvelle...
Voilà, caractérisation. Et c'est vrai que là, moi, j'ai vraiment pris conscience et que j'ai pris conscience du danger au final et de l'impact que ça allait avoir. Ce n'est qu'en quatrième.
Sur vous-même, c'est là que vous vous êtes dit que vous alliez en parler à vos parents.
Alors, j'en ai parlé auparavant et même au-delà de ça, quand je prends du recul aujourd'hui, quand je mangeais avec outrance et abondance, avec boulimie, il y avait deux choses. Alors, il y avait, pour moi, c'est une forme d'autosuicide. Cette boulimie à outrance sans limite.
Bien sûr.
Mais c'est aussi, je pense, un signal induit, extérieur, pour dire à mon entourage, mais au fait,
il y a
quelque chose qui va pas. Mm-hmm. Voilà. Et donc, moi, j'en ai parlé à mes parents, et en fait, le problème qui se passe, et qui est un véritable problème, c'est que malgré toute la bonne volonté de quelques parents que ce soit, quand ils se retrouvent face à un établissement, en fait, il y a une barrière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce qui se passe dans l'établissement. Donc, même s'ils vont leur demander ce qui se passe déjà, que l'établissement va généralement dire qu'il ne se passe rien, que tout va bien et que c'est peut-être votre enfant qui a des problèmes, c'est déjà compliqué d'aller plus loin. Mais même si donc, on va plus loin, les parents n'ont pas d'impact sur ce qui se passe dans l'établissement scolaire, dans la salle de classe, dans la cour de récréation.
Oui.
Mais vraiment, c'est juste pour finir sur ce qui m'a vraiment fait prendre conscience, c'est cette scène en quatrième avec le cyberharcèlement qui a commencé pour moi en quatrième alors que je n'étais même pas sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. C'est cette vidéo du coup qui a circulé et qui a fait que je me suis retrouvé sur la place du village accompagné de ma mère à voir en fait un groupe de jeunes qui commençaient à rigoler en me reconnaissant. Et je me suis dit, en fait, ce groupe de jeunes, je ne le connais pas, ils sont sûrement du collège d'en face.
C'est face à l'ampleur de la situation que vous avez dit, que vous avez dit que là, il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. Vous avez pris conscience des choses. Merci beaucoup, hein, Hugo Martinez, d'être avec nous, parce qu'on entend, vous avez un petit souci de voix. 33 1 4 84 22 71 71, c'est votre émission. Vous avez la parole sur cette question du harcèlement à l'école et comment aider les parents dont l'enfant en serait victime. Nous sommes en ligne actuellement avec Viviane de N'Djamena, qui a 29 ans. Bonjour Viviane.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins.
C'est Florelle. Emmanuel n'est pas là, c'est Florelle, mais il n'y a pas de problème. Viviane, vous avez été victime de harcèlement au CM1, CM2. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un petit peu, nous raconter tout cela, Viviane?
D'accord. Effectivement, quand j'étais au CM1, ça commençait avec les jeunes enseignants qui étaient affectés dans notre école. Mm-hmm. Et donc, comme je l'ai dit sur Facebook, moi, je suis allée à l'école en retard, pratiquement à 11 ans. Donc, au CM1, j'étais grande, j'étais ado.
Oui.
J'étais grande, donc ces enseignants-là, au début, moi, je pensais que c'était des admirations, de l'estime qu'ils avaient pour moi. Donc, ça commençait par « tu as une belle forme, tu es belle et tu es ceci ». Et puis, ça commence par toucher les épaules, après, ça vient au dos et puis ainsi de suite. Mais au début, je ne comprenais pas.
De la part des élèves ou de vos enseignants?
Non, des enseignants.
D'accord.
Des enseignants.
Ok.
Alors, après, je comprends que ça prend une autre tournure. Donc, je n'en ai pas parlé à ma maîtresse de l'école. Je n'en ai pas non plus parlé aux parents ni aux amis. Mais j'ai préféré plutôt me cacher. Et la même chose encore s'est répétée au collège. Et là, il n'y avait pas des attouchements, mais c'était verbal. Ça se disait des choses, et si on se voyait un jour, et ainsi de suite, jusqu'à, je crois, aussi en terminale, mais là, je réponds, j'avais le verbe, donc je répondais à ce genre de comportement-là, je me défendais moi-même, puisque j'avais à ce moment la faculté de discuter, de me défendre, donc je me défendais. Mais je n'en ai parlé à personne et cette situation m'a amenée à détester tous les hommes, y compris mes proches. Et je crois que c'est pour la première fois que j'en parle. Je n'en ai parlé à personne, je gardais ça en moi. Et c'est tombé comme ça. Et puis je me suis dit, mais il faut se libérer. Donc j'en parle pour la première fois. Donc, également à l'université et puis voilà.
C'est terrible, hein, ces témoignages. Et puis c'est terrible, c'est une violence un tout petit peu différente du harcèlement entre pairs. Là, c'est l'ascendant d'un adulte sur une enfant. Et on voit que dans toutes ces situations de violence, la libération de la parole est très, très, très compliquée. Et effectivement, à partir du moment où vous parliez tout à l'heure de votre enseignant qui a tolérance zéro vis-à-vis des chaquineries, des taquineries. je crois qu'à partir du moment où la situation se cimente, hein, c'est-à-dire qu'une situation de harcèlement se poursuit, se cimente, s'enracine, plus ça s'enracine et plus c'est compliqué. Donc c'est vrai que la prévention, c'est-à-dire avant que ça n'arrive, permet d'enrayer durablement peut-être.
Oui, Valérie Pio.
Et justement, le fait qu'il faut agir le plus vite possible, quand l'enfant ose parler, ce qui déjà est très difficile et met beaucoup de temps, à ce moment-là, vraiment, la famille doit prendre rendez-vous avec le chef d'établissement. Et moi, je conseille quand même de faire un petit mail mail pour acter qu'il y a eu un rendez-vous, qu'il a été, voilà, que l'effet de harcèlement, c'est ça, ça, ça et ça, en étant factuel. Et si sous 8 jours, il n'y a pas d'intervention au sein de l'établissement qui permet de faire changer les choses, mais dans un délai très court, je conseille aux familles d'écrire notamment au DAZEN, c'est le directeur administratif des services de l'éducation nationale, l'ancien inspecteur d'académie. D'accord. Puisque comme le harcèlement est une, la lutte contre le harcèlement, c'est une priorité nationale, il ne faut pas, le fait de prendre un rendez-vous, parce que moi, malheureusement, j'ai beaucoup de familles qui ont pris rendez-vous et ça n'a pas suffi.
C'est ça, c'est ce que j'ai. Voilà, les rendez-vous. Vraiment, on ne répond pas, les établissements scolaires ne répondent pas à ce genre de demande. Alors, de rendez-vous, parfois.
Pas, oui, et puis et même des fois, le rendez-vous a lieu, il n'y a pas d'intervention et ça traîne. Il y a un cas de jurisprudence épouvantable d'un enfant qui avait fini par se suicider à la suite de harcèlement. Les parents avaient avisé l'éducation nationale et du coup, il y avait une condamnation de l'État, mais ça s'était inscrit sur des mois et des mois. Donc vraiment, moi, si j'ai un conseil juridique à donner, c'est agir vite et agir par écrit, en avisant éventuellement les autorités pour qu'il y ait la mise en place d'une intervention, on va dire, musclée et rapide.
Musclée, oui, effectivement. Voilà. Nous sommes également en ligne avec Ousmane à Conakry. Vous avez 28 ans. Bonjour Ousmane.
Bonjour madame.
Florelle.
Madame Alors, Florelle,
ça va très bien, merci. Merci déjà de votre témoignage. J'en profite également pour remercier Viviane pour son témoignage assez édifiant. C'est la première fois qu'elle se confiait sur ce qu'elle a, sur ce qu'elle a vécu.
Il faut la remercier d'avoir osé devant des millions d'auditeurs.
C'est effectivement le cas. Alors Ousmane, vous avez été également victime de harcèlement à l'école primaire, c'est ça?
Oui, madame.
Alors, on vous écoute. Racontez-nous.
Ok. Avant de commencer, permettez-moi de dire bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI, et plus particulièrement à ceux et celles de l'émission 7 milliards de voisins.
Ils vous écoutent.
Ok. Alors, moi, j'ai commencé l'école primaire dans la commune de Ratoma, chez mon oncle maternel. Oui. Donc, j'ai fait 4 ans avec lui, c'est-à-dire à partir de 1998. Donc, en 2001, lui, il est décédé. Et vu qu'il n'y avait plus quelqu'un ici pour soutenir la famille, donc ma famille maternelle a décidé à ce que je fasse le transfert, c'est-à-dire de Ratoma pour Matoto, précisément dans une école qu'on appelle Dabondi.
Donc, 2001, vous étiez à l'école primaire et c'est là que le harcèlement a commencé, quand vous avez changé d'école.
Oui, oui.
C'est ça.
Oui, quand j'ai changé d'école, avant ça, d'abord, j'ai commencé les cours un peu tard parce que le retrait de mes dossiers a pris du temps.
Aussi, ouais, merci.
Oui, on vous écoute, Ousmane, on vous écoute.
Le retrait de mes dossiers a pris un peu de temps dans mon ancienne école, quoi. Donc, j'ai trouvé que les autres étaient un peu en avance. Donc, je me rappelle, un 17 octobre 2001, on m'a installé, c'est-à-dire à Dabondi. Et dès que je suis rentré, j'ai trouvé que les autres étaient en histoire. Et quelques minutes après, le maître a posé la question et sur le coup, j'ai levé mon doigt pour répondre à la question.
Oui.
Et ça a commencé à murmurer dans la salle parce que toute la salle était étonnée à dire...
Vous avez donné la bonne réponse, en fait, c'est ça. Vous avez donné la bonne réponse et ce qui vous a différencié, en tout cas, ça a attiré l'attention sur vous et vos camarades ont commencé à vous faire des réflexions, c'est ça?
Oui, oui, oui. Et à chaque fois maintenant que je lève mon doigt pour répondre à la question, les autres étaient là derrière moi à me faire des signes, à dire « Ah, il faut baisser ton bras là, tu penses que tu es le seul ici ?» Oui. Donc on commençait de plus en plus à se moquer de moi, à m'intimider, et cela a fait que vraiment... j'ai eu ce qu'on appelle ici la perte d'estime en moi, la confiance, mais également un sentiment de honte. Donc, en résumé, je ne répondais plus à des questions et malgré cela, mes camarades ne m'ont pas laissé en paix.
Oui, parce qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé un petit peu plus tard. C'est ça, Ousmane?
Oui. C'était un jour, pendant la récréation, j'étais là à acheter à manger. Il y a 2 humains qui sont venus vers moi en me disant... Une a dit que je suis hautain et directement j'ai répliqué en disant j'ai bien fait. Vous voyez? Donc la seconde est venue, pendant que je mangeais, elle m'a tapé. Et du coup, je n'ai rien fait. J'ai attendu qu'on sonne pour la reprise des cours, quoi. Donc quand je rentrais, je l'ai aussi tapé, je suis rentré dans la salle. Et c'est là-bas maintenant qu'elles m'ont dit qu'à la sortie, qu'on va se voir.
Et vous n'avez...
Moi, je...
Et vous n'en avez jamais parlé à un enseignant ou à un adulte de cette situation, Ousmane?
Bon, je ne l'ai jamais fait parce que déjà, je me considérais comme un étranger. Je venais de partir là-bas, donc j'avais honte et puis j'avais peur aussi de dire ces choses.
Vous vouliez vous faire discret. D'accord.
Oui.
Merci beaucoup, Ousmane, de votre témoignage. Une réaction peut-être. Oui, Valérie.
C'est vrai que parmi les familles qui viennent me voir, il y a souvent, en fait, n'importe quel enfant peut être victime de harcèlement, mais plus souvent, ça va être un enfant qui se trouve isolé parce qu'il a déménagé, comme c'est le cas de votre auditeur, ou un enfant qui a sauté une classe qui est un peu plus petit, ou un enfant qui souffre d'un trouble, dyslexie, dyspraxie, etc. Et du coup, qui est un petit peu différent. Et c'est vrai que souvent, le harcèlement, en fait, on va choisir une victime qui est un petit peu plus isolée, mais c'est vrai que ça peut être un simple déménagement comme lui, c'est qu'il dit « je me sentais étranger dans cette école
». Voilà. Du coup, il s'est tu.
Oui.
On va continuer d'aborder cette question très importante du harcèlement scolaire. Pour le moment, on va écouter un petit peu de musique. Oxmo Puccino, L'enfant seul, dans cette lumière de voisins.
Quartier neuf, bref, où font tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend, peu le savent. Que je le sache, ça te surprend. Il mate par la vitre, la solitude qu'il mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère, disent-ils, ils n'en discutent pas, confondent la rime et l'acte. La fuite et le suicide impact, une promo sans traque, pas trop de mots. Nobody n'a capté le sale, soit l'envie de se laisser par le coup pendu pour punir les parents qui pour aimer l'enfant ont trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est le départ en tête. L'embêtement qu'en passe-temps, on fait des parts en bête. Maîtrise dans 6 ans, sentiment en ciment. Sinon, dans 6 ans, on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond, tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond, tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond, tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds.
Vous écoutez 7 milliards de voisins et avec nos invités Hugo Martinez, Valérie Piau et Catherine Verdier, nous parlons de harcèlement à l'école. Comment sensibiliser les parents et les chefs d'établissement? Et en parlant de parents justement, partons à présent en Corée du Sud, un pays où le harcèlement scolaire est un problème majeur, un problème qui prend de telles proportions que certains parents en arrivent à recruter des gangsters couverts de tatouages pour intimider les harceleurs qui martyrisent leur enfant. On en parle avec Frédéric Orgias, notre correspondant à Séoul. Tout d'abord, comment en arrive-t-on à de telles extrémités, Frédéric?
Oui, bien parce que le harcèlement scolaire fait vraiment des ravages ici. Il tue littéralement. La Corée du Sud a un taux de suicide très élevé. C'est la première cause de mortalité des 15-24 ans. Des suicides qui sont causés par la forte compétition scolaire et par le harcèlement à l'école. Alors, il est difficile d'avoir des chiffres précis. Une étude indépendante réalisée en 2015 affirme qu'un tiers des écoliers collégiens et lycéens seraient victimes de violences à l'école, tandis que 20% seraient, eux, les auteurs de harcèlement. Une étude gouvernementale donne, elle, un chiffre beaucoup plus bas, autour de 10%. Ce qui est sûr, c'est que le sujet fait l'objet d'un débat national depuis des années. La presse fait régulièrement état de drames, de suicides d'enfants victimes pendant des mois de violences, d'insultes, de vols de la part de leurs camarades. Et c'est dans ce contexte très dur que ces services privés sont apparus. Les familles qui en ont les moyens peuvent louer à la journée des hommes couverts de tatouages. Alors, les tatouages, c'est le signe distinctif des gangsters ici, des hommes qui ont pour mission d'intimider une bonne fois pour toutes les harceleurs de leurs enfants.
Mais alors, c'est évidemment pas la solution. Pourquoi le problème est si marqué en Corée? Quelles en sont les causes?
Bien, le système scolaire coréen, il est marqué par une compétition intense entre les élèves dès le plus jeune âge. Et la société coréenne est aussi très conformiste. Elle tolère encore mal la différence. Toute personne qui se démarque peut être la cible de discrimination, de violence. C'est pourquoi il semble que ce sont les enfants issus de familles mixtes ou d'origine étrangère qui sont le plus victimes de ces abus. On m'appelle toute la journée gâteau au chocolat à cause de la couleur de ma peau, témoigne ainsi dans le quotidien Chungang Ilbo, un petit garçon dont le père est pakistanais. Le problème, il est aggravé par le fait que les directeurs des écoles sont souvent accusés d'être très passifs. Certains sont accusés de mettre ses affaires sous le tapis pour ne pas apparaître comme des établissements à problème. Et puis enfin, dernier point, la Corée, c'est un pays ultra connecté. Beaucoup d'interactions sociales ont lieu sur Internet. Et le cyberharcèlement, les insultes continues via les réseaux sociaux, les messageries, est très répandu. Et bien sûr, c'est très difficile à contrôler et à prévenir, puisque tout est en ligne, loin du regard des parents et des professeurs.
Est-ce que les choses bougent tout de même, par exemple, du côté de la loi ?
Alors, les choses bougent, en tout cas, le sujet est de plus en plus discuté. Cette année, deux jeunes stars de la K-pop, la musique pop coréenne, ont été obligées de présenter des excuses après que d'anciens camarades de classe les ont accusés publiquement de violence à l'époque du collège et du lycée. Et puis, pour rester dans le secteur de la K-pop, le suicide d'une célèbre chanteuse de 24 ans, Sully, le mois dernier, a fait énormément parler d'elle parce qu'elle avait été victime d'une intense campagne de cyberharcèlement pendant des années. Et sa disparition a contribué à remettre sur la table cette question, la question du cyberharcèlement à l'école comme ailleurs. Pourtant, la loi, donc pour répondre à votre question, la loi reste encore très en retrait. Aucun système de prévention n'est institutionnalisé. Aucune mesure particulière n'est prévue pour les harceleurs. Après le décès de Sully, un projet de loi a enfin été déposé à l'Assemblée nationale. Il obligerait notamment les écoles à donner des cours de prévention dans les classes, mais elle n'a pas encore été votée. Et pour le moment, c'est la société civile qui est le plus active. Des associations ont par exemple mis en place des hotlines téléphoniques, des programmes de prévention, de médiation, des efforts qui sont à l'évidence bien insuffisants.
Merci beaucoup à Frédéric.
On est dans l'extrême là.
On est dans l'extrême.
Maintenant, on voit aussi que le harcèlement entre pères, le harcèlement entre enfants, c'est au-delà des frontières, quoi.
Ce que je trouve intéressant dans la démarche qui est initiée, c'est que le problème est vraiment pris comme un problème de fond, d'éducation aussi, de société aussi. C'est-à-dire que on voit bien dans les pays nordiques, par exemple, où on a des cours d'empathie dès le plus jeune âge, on voit bien l'impact à long terme qu'il y a sur les chiffres. Et je crois que c'est ça aussi qui manque peut-être dans notre pays, en France. Et c'est peut-être cette notion-là qu'il faut ajouter dans la lutte contre le harcèlement scolaire.
Hugo, vous parliez, depuis le début de l'émission, vous parlez de problèmes de fond, on ne comprend pas ce problème assez dans le fond. Est-ce que peut-être pour les parents aussi, pour les aider un petit peu à identifier, est-ce que peut-être quelque chose d'assez basique comme de demander régulièrement à son enfant comment ça se passe à l'école ? Est-ce qu'on t'embête à l'école ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi
Je crois qu'il faut vraiment créer un climat de confiance, en fait, pousser, inciter au dialogue. On est dans une société où on a peur, au final, de s'exprimer parce qu'il y a une pression sociale. C'est cette même pression sociale qui empêche des témoins silencieux d'agir, de prendre son courage à deux mains et de dire à un adulte, il y a ce jeune qui est... Alors, le terme harcelé est rarement employé par un jeune, donc qui est embêté, bousculé, etc. Mais oui, en effet, créer un climat de confiance, donc que ce soit au sein de la famille, qui est favorable au dialogue, mais également aussi dans l'établissement scolaire. Si un enfant qui est témoin, par exemple, qui se retrouve donc à livrer ce qu'il a vu le matin même dans la cour de récréation, un proviseur, un surveillant, il va se retrouver presque montré du doigt en début d'après-midi. Ah donc, il y a tel élève qui vient de nous rapporter que tel autre élève avait été bousculé, etc. On ne peut pas dire que c'est un climat favorable au dialogue. C'est impossible. Ouais. Il faut que ça soit constructif. Il faut que l'élève, quand il vient dans le bureau des surveillants, dans le bureau de l'infirmière, il faut qu'il ait envie de parler. Moi, à titre personnel, par exemple, en seconde au lycée, quand j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai livré ce que j'avais sur le cœur à l'infirmière de mon lycée pendant plus d'une heure, j'ai quand même eu cette infirmière qui m'a dit « Mais Hugo, si tu étais un peu plus débrouillard, si tu te défendais un petit peu plus, on n'en serait peut-être pas là. »
Oui, donc il y a vraiment un travail.
Ça existe encore.
Il y a un travail de fond, comme tout le monde le dit, c'est-à-dire, c'est ce que je dis depuis des mois.
Et à prendre cette question au sérieux.
C'est tout un problème d'éducation, c'est tout un problème éducatif de la société tout entière, parce que le harcèlement entre pairs, c'est au conservatoire de musique, c'est au club de sport, c'est dans les centres aérés, c'est partout.
Donc tout ce qui est mis en place aujourd'hui, au moment où on se parle, que ce soit le numéro vert qu'on n'a pas encore appelé, le 30-20, ou alors le système un peu d'ambassadeur, tout ça n'est pas suffisant, Valérie Appiot.
Je voulais revenir sur une chose, c'est que le harcèlement touche tous les établissements scolaires, même les établissements élitistes, par rapport à ce qui a été dit.
C'est important de le
dire. Et en plus, ce que disait d'ailleurs votre reporter, c'est que des fois, les établissements un peu élitistes à très bonne réputation vont essayer de mettre un peu sous le tapis ce qui se passe, parce que ça fait une mauvaise réputation. Mm-hmm. Et c'est vrai que le harcèlement aussi peut être utilisé, justement, face à un élève qui va être tête de classe dans un établissement assez élitiste. C'est une manière aussi, notamment peut-être qu'à Séoul, ça explique un petit peu ce qui se passe aussi. Et juste un conseil pour vos auditeurs qui ne sont pas en France. En France, il y a une infraction pénale, mais même dans les pays où il n'y a pas une infraction spécifique de harcèlement, ça tombe quand même sous le coup de violences, ou de menaces de mort, ou de menaces...
Parce qu'on parle de violences physiques aussi.
Voilà, exactement. Donc même s'il n'y a pas une infraction spécifique de harcèlement, en France, c'était le cas avant, si vous êtes tapé, si vous êtes insulté, si vous êtes menacé de mort, ça reste des infractions pour lesquelles vous pouvez porter plainte.
Oui. Alors, par rapport au dispositif qui pourrait être intéressant, et Dieu seul sait qu'il y en a, et on va les aborder, puisque Catherine Verdier et Hugo Martinez, justement, vous êtes à l'initiative d'un projet, je vais y arriver, qui va peut-être faire la différence. J'aimerais qu'on écoute Khalifa Traoré, qui est avec nous, bonjour, au Mali.
Bonjour.
Khalifa, vous êtes enseignant et président de l'association Moussou Demeton. Excusez-moi déjà pour la prononciation.
Moussou Demeton, qui signifie en français soutien aux femmes.
Oui.
Et qui fut créé le 20 septembre 2015. Cette association intervient dans le domaine de la protection et la promotion des droits de la femme et des jeunes filles, notamment les harcèlements envers les filles.
Oui, alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe au sein de votre association par rapport au harcèlement scolaire, puisque c'est l'une de vos priorités justement.
Oui, le harcèlement au niveau scolaire, c'est l'une de nos priorités. Nous avons mené beaucoup de campagnes de sensibilisation dans les écoles qui ont ciblé les enseignants et les élèves eux-mêmes, mais aussi des activités de plaidoyer auprès des autorités scolaires, des directeurs d'école, le centre d'académie pédagogique et l'académie d'enseignement. Mais aussi, nous avons fait de larges diffusions de la Convention internationale des droits de l'enfant dans les écoles. Ont permis des enseignants et des élèves de faire une grande connaissance sur la Convention des droits de l'enfant.
Et qu'est-ce qu'on vous répond quand vous faites de la sensibilisation justement comme ça auprès de l'État, etc., de toutes ces institutions? Qu'est-ce qu'on vous dit, Khalifa?
Tout d'abord, dans la majorité des cas au Mali, le harcèlement de l'enseignant vis-à-vis de l'élève qui est très répandu, et cela se traduit par du dénigrement, des humiliations, des menaces, du châtiment corporel, des insultes et même voire des attouchements sexuels. Donc nous sensibilisons les élèves et même les enseignants et tous les responsables, les parents d'élèves, les conséquences que ces pratiques puissent produire sur les jeunes filles et les garçons aussi.
Oui. Merci beaucoup, Khalifa, pour votre témoignage. Et donc, je le disais, Catherine Verdier et Hugo Martinez, vous êtes donc à l'initiative de ce centre de formation
au harcèlement scolaire.
En quoi ça consiste et à quel point c'est important aujourd'hui d'avoir un établissement comme ça.
Ça fait plus de 3 ans que je sillonne toute la France. Effectivement, à chaque fois, on me demande, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai une situation de harcèlement. Quels sont les outils? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Comment je parle, etc., etc. Et en fait, l'autre jour, je raconte l'anecdote que j'ai déjà racontée, mais à la fin d'une conférence, il y avait des enseignants. Je leur demande combien d'années d'études. Ils me répondent 5. Sur 5 années, combien de temps, de minutes, d'heures consacrées au harcèlement scolaire, au harcèlement entre pairs? 0. Mm-hmm. Donc sur 5 années. Donc je comprends qu'ils soient démunis. Hein. Ils ont aussi des apprentis. Ils ont plein de choses. On leur demande plein de choses aux enseignants.
Oui, ils ont des grandes classes avec 30 élèves
très
parfois seuls.
Donc effectivement, c'est pas évident. En plus, le harcèlement, c'est à l'abri du regard des adultes. Hein. Donc oui. Pas toujours évident d'arriver à le distinguer. Donc je jette pas la pierre, mais ils sont en demande d'outils. Donc ce centre de formation s'adresse à tous les encadrants d'enfants, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut être des encadrants qui sont au conservatoire de musique ou qui sont au centre sportif, peu importe.
Qui travaillent avec des enfants.
Qui travaillent et qui encadrent les enfants, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs modules. Donc le premier module est adressé aux professionnels de santé. Parce que qui sont les premiers concernés quand ils reçoivent un enfant? Qui est-ce qui voit ou qui détecte qu'un enfant commence à bégayer? C'est l'orthophoniste, par exemple. Donc, les médecins, les pédiatres, etc., tout le paramédical. Un deuxième module qui sera consacré aux avocats, parce qu'il y en a trop peu. Qui ont peut-être aussi des difficultés à accueillir la parole des familles et de ces familles. Moi, j'ai vu une situation où c'était la harcelée qui a accusé l'autre d'harcèlement. Donc la situation était complètement retournée.
Ça arrive assez souvent, hein, effectivement. Wow. Du coup, moi, ça m'arrive aussi d'avoir des enfants harcelés qui vont exploser, qui subissent et qui vont frapper, enfin qui vont se défendre, mais d'un coup.
Qui est parfois un prétexte en plus après.
Voilà, qu'on découvre une situation. Oui. Moi, ça m'arrive souvent de découvrir une situation de harcèlement à l'occasion d'un conseil de discipline où un élève en a tapé un autre. Et quand on creuse, on se rend compte que ça fait des mois qu'il se faisait taper, insulter, etc.
Tout à fait.
C'est vrai que c'est pas si simple que ça. Et souvent, c'est important de décrypter. De comprendre pourquoi il y a eu, par exemple, sur les faits de violence, ça, c'est assez connu que le harcelé, à un moment donné, ne supporte plus et comme il n'ose pas aller voir les adultes. Et voilà, exactement.
Donc, il y aura un module pour les avocats, un module pour tout ce qui est périscolaire, hein, parce que les encadrants au niveau des activités extrascolaires, et on espère un module pour les enseignants, puisque c'est quand même eux la première demande. Voilà, tout en sachant que ce centre de formation existe. Et moi, j'avais ouvert en juillet 2018 un centre de formation au Luxembourg, où je réside, un centre européen de formation qui ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Mais là, le centre avec Hugo, c'est sous forme de module.
Hugo, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce centre de formation que vous avez cofondé, qui a été lancé en septembre
année. Oui, tout à fait.
Exactement. Non, juste rajouter que notre souhait avec ces formations qu'on a consultées avec Catherine, c'est d'à la fois associer vraiment l'aspect, j'ai envie de dire, expertise plus théorie, mais aussi l'aspect vraiment pratique, terrain, parce que c'est aussi par là qu'on apprend, parce que le harcèlement scolaire, c'est un phénomène social, et comme tout phénomène social, il n'y a pas de règles, c'est pas un cahier des charges à suivre. Chaque enfant est unique, chaque cas est unique, et c'est vraiment le souhait aussi de nos formations, c'est de pouvoir les accompagner à chaque fois de témoignages, de cas pratiques et surtout de mise en situation. Là, pour l'exemple du cycle de formation santé, le troisième module est une journée réservée à l'atelier thérapeutique Stop and Go, conçu par Catherine Verdier, qui pourra mieux vous en parler que moi, mais en tout cas avec une véritable mise en situation des apprenants pour qu'ils puissent après redéployer cet atelier dans leur cabinet.
Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est le caractère pluridisciplinaire, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait un accompagnement juridique s'il y a des faits graves et qu'il faut intervenir auprès de l'établissement pour qu'il y ait des sanctions disciplinaires auprès...
Aujourd'hui, les outils juridiques, quels sont-ils ?
Les outils juridiques, ils sont doubles, en fait. Il y a l'aspect disciplinaire au sein de l'établissement scolaire qui est une réponse par rapport au chef d'établissement et qui peut aller jusqu'à l'exclusion. Donc, c'est comme vous, si vous êtes harcelé à votre travail, il faut que votre employeur y réagisse parce que toute la journée, vous êtes à votre travail, l'enfant, toute la journée, est dans son école. Et après, s'il y a eu des faits graves de violence ou de harcèlement qui impactent la santé et qu'il y a des faits graves, dans ces cas-là, c'est une infraction pénale. Ça veut dire que la société va pouvoir condamner pénalement et il pourra y avoir avoir éventuellement une réparation sous forme de dommages et intérêts de la victime, puisqu'on sait que le harcèlement impacte très gravement la victime.
J'ai une question. Il y a beaucoup de gens qui arrivent au bout du processus. La loi est appliquée, elle existe.
Oui, non, moi je vois quand même une évolution.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui harcèlent, qui sont sanctionnés?
Si, moi je vois quand même de plus en plus quand même de d'affaires qui vont au bout, à la fois au niveau à l'école avec des exclusions ou une intervention qui permet de mettre fin au sein de l'établissement scolaire. Et après, quand les familles font des mains courantes, souvent les harceleurs sont convoqués à la police. Et je vous assure que quand même, déjà rien que le fait d'être convoqué à la police avec ses parents, c'est et de s'expliquer.
Ça arrive souvent,
je le vois assez souvent. Non, il y a quand même, je trouve, une prise en charge qui est meilleure. Et très souvent, les harceleurs sont déjà au moins convoqués avec les parents. Et il y a un effet intimidant quand on vous rappelle que vous risquez...
Est-ce qu'il ne serait pas intéressant dans les campagnes de prévention, de sensibilisation, qu'on mette plus l'accent sur cela? Parce qu'on parle beaucoup, à juste titre, et c'est normal, par exemple, de ces enfants qui mettent fin à leur jour, mais peut-être aussi de
la peur du gendarme, peut-être expliquer que c'est grave et que effectivement on peut
que ça
peut
pas
aller
juste de la brimade,
alors après très honnêtement les peines d'emprisonnement pratiquement je n'en ai jamais
ça
vu
ça sera déjà bientôt le mot de la fin. Oui. Valérie Pio, Catherine Verdier, Hugo Martinez, donc si vous avez envie de nous dire quelque chose qui serait important que l'on retienne, c'est le moment. Je vous laisse finir, hein, Valérie Pio.
Voilà, vraiment que les parents agissent auprès de l'établissement scolaire et éventuellement n'hésite pas à aller voir la police si les faits de harcèlement sont graves. Et juste pratiquement, en matière de cyberharcèlement, faire des copies écran, etc., pour se ménager des preuves. Oui. Parce que le cyberharcèlement, important, on peut se ménager des preuves. Ça, c'est très important aussi.
Oui, Catherine Verdier.
Moi, je voulais juste dire que tout ça, c'est super et ça existe. Ce sont ce qu'on appelle des méthodes de réparation. Ce sont des pare-feux. Les ambassadeurs, on n'en a pas parlé, etc. Oui. Ce sont des pare-feux. Ils sont mis en place à partir du collège. Je ne sais pas pourquoi à partir du collège. Je ne comprends pas pourquoi les chiffres de l'UNICEF ne sont pas pris en compte. Et j'ai dit hier, lors d'une émission de télé à une députée, j'ai dit qu'il faut mettre ça en place à partir du primaire.
Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. Parce que moi, je vois des familles, c'est de plus en plus jeunes. Et en plus, plus il y a débordement, plus ils sont jeunes parce qu'ils n'ont pas la maturité. Et voilà, quoi.
Ouais. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir été avec nous.
Les dates. La prochaine date pour le centre de formation?
Oui, alors allez-y.
À Paris.
Ah.
D'accord. À Paris, le vendredi 17 janvier et samedi 18 janvier sur deux jours.
C'est noté. On le
mettra sur l'association
Hugo. On le mettra sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous, Hugo Martinez. Merci au studio de Radio France à Lyon pour ce duplex. Merci Catherine Verdier. Valérie Pio. Dans quelques instants, on retrouve la voisine Diara Ndiaye pour nous présenter le programme de demain.
Alors, on dit quoi ?
Hello Diara.
Bonjour, sœur Florel.
Alors, portrait de jeunes qui ont décidé de rentrer et construire une carrière pro dans leur pays d'origine.
Effectivement, ce sont ces fameux RÉPAT, ces jeunes qui tentent de contribuer au développement économique de leur pays. Une belle vision, mais ses aspects sont plutôt positifs et parfois même négatifs.
Mon père était étudiant, donc il a fait son cursus à Bordeaux. Après, on a fait Lyon, avant on avait fait Paris. J'ai exercé professionnellement. J'ai eu à acquérir mes premiers emplois à l'international. J'ai exercé et gagné valablement ma vie. Mais à un moment ou à un autre, je me suis dit que mon devoir d'Africain m'imposait de venir sur le continent apporter ma contribution. Je suis arrivé au Niger il y a à peu près 10 ans. La chose dont je suis fier, c'est d'avoir contribué à avoir mis en place des entités qui aujourd'hui aident des gens à vivre. Et à travers ces gens, en Afrique, quand vous aidez une personne, vous en aidez au moins 5 ou 10 derrière.
Rendez-vous à 10h10, temps universel sur l'antenne Afrique.
Merci beaucoup, Florelle. À demain.
Et voilà, ça se termine, 7 milliards de voisins qui se terminent. Merci infiniment à toute l'équipe de l'émission de m'avoir permis de vivre cette semaine ici incroyable. Merci à Cécile Lavolo, Romain Duprac et Baptiste Madinier. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine, et nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Lundi, 7 milliards de voisins de retour avec Emmanuel Bastide. À très vite et prenez soin de vous.
ce samedi sur RTL.